France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Et on file tout de suite en Floride, l'un des États qui fournit le plus de grands électeurs. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour Mathilde.
On est en direct de Miami avec vous. Ça a l'air plié la Floride maintenant.
Oui, c'est ça. Et j'ai passé la première partie de soirée avec les Trumpistes, hein, sur fond de musique latino. Les Trumpistes ont célébré leur victoire sur un parking d'une zone commerciale de Miami. Et je tiens à dire qu'on nous a pris la température à l'entrée et ils portaient tous des masques. 51,3% pour Trump, 47,8% pour Biden, avec 97% des voix dépouillées. Et en même temps, ils étaient plutôt sereins, les Républicains en Floride. Une victoire contenue parce qu'ils savent que rien n'est encore gagné. Ils ont dansé sur des airs cubains, ils ont applaudi devant les écrans de télévision. La majorité de ses partisans ce soir, c'était des hispaniques. Le socialisme, très peu pour nous. Voilà ce qu'on peut lire, ce qu'on pouvait lire sur les pancartes en référence à Joe Biden. Nous, on veut un homme fort, un homme qui nous remet de l'ordre. On veut un homme qui chouchoute notre économie. Et voilà, ils ont dansé avant de couper la musique net tout à l'heure. Visiblement, pour les Trumpistes, les résultats, ce sera à la maison. Du coup, j'ai changé quand je suis allée du côté démocrate et je suis au local des Haïtiens pour Biden. Alors évidemment, il y a beaucoup de déceptions ici. On croyait que ça pourrait le faire, mais on y croit encore. Rien n'est encore gagné. Tout le monde a les yeux rivés en ce moment sur l'écran de télévision. Vous l'entendez, prêts à y passer la nuit. Ils sont allongés sur des fauteuils avec des couvertures et du café. Ils vont y passer toute la nuit. Une nuit qui risque d'être très longue. Déception quand même ici que le raz-de-marée démocrate n'est pas frappé.
Gaëlle Joly en direct de Miami pour France Inter. Laurence Nardon, la route vers la Maison-Blanche, ça passe par le nord, on l'a dit tout à l'heure, avec ces États où c'est encore vraiment très serré, il n'y a pas de gagnant qui se dessine. La route du sud, en revanche, elle est plus claire, hein, Texas-Floride, ça penche du côté de Trump.
Oui, on en conclut que le parti démocrate a eu raison de suivre ces deux stratégies pendant la campagne. Il y avait la stratégie de reconquête des États de la Rust Belt, enfin de ces États désindustrialisés du Nord, et en même temps une stratégie de conquête des États du Sud qui semble ne pas avoir fonctionné. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par État du Sud, parce que si on voit qu'il remporte l'Arizona et le Nouveau-Mexique, bon, sans parler évidemment de la Californie, mais ça fait longtemps, si on a cette grande définition de Sud, le Parti démocrate n'a pas démérité.
Merci beaucoup, Laurence Nardon. Vous restez avec nous, hein, tout au long de ce 5-7 spécial. On va regarder maintenant Fox News.
Fox News. Fox News Empire.
America is watching.
Alors, je peux pas tout faire, moi. C'est difficile de regarder Fox News, CNN, d'écouter, d'interviewer les gens qui sont autour de cette table. C'est vous qui êtes chargé de regarder cette télévision, Anthony Bélanger, hein, première chaîne d'information du câble aux États-Unis, chaîne conservatrice. Comment se passe la soirée électorale sur Fox News?
Ah bah plutôt bien pour eux. Visiblement, la journaliste qui reporte depuis la Maison-Blanche pense que le président regarde les chiffres avec plutôt bonheur. Il y a une analyse sur Fox News qui est passionnante, qui est celle qui est faite sur le comté de Kenosha, qui se trouve dans le Wisconsin. C'est un État qui est en balance, hein, qui devrait pouvoir être remporté soit par les démocrates, soit par les républicains. Et l'État de le comté de Kenosha, vous savez, c'est cet endroit où en août 2020, c'est-à-dire il y a quelques mois, il y a eu des émeutes. Mm-hmm. Il y a eu des émeutes raciales, notamment autour du mouvement Black Lives Matter, parce qu'un noir avait été tué par des policiers blancs. Des émeutes qui ont eu lieu tous les jours. Et un militant, on va dire, un milicien, vous savez, un jeune milicien qui avait fini par tirer dans la foule quelques jours plus tard, c'était le 25 août dernier. Le comté de Kenosha est très intéressant parce qu'il était, a priori, censé passer côté démocrate, comme l'État de Wisconsin. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, il a voté à 66% pour Donald Trump. C'est important de comprendre ça parce que Fox News l'analyse de la façon suivante. En fait, Donald Trump avait un slogan qui était Law and Order, qui a bien fonctionné dans les endroits où ils ont connu une certaine où le mouvement Black Lives Matter était particulièrement important, où les manifestations ont été suivies et où il y a eu des affrontements entre gauche et droite. Dans ces endroits-là, Donald Trump, qui a priori avait été parti pour perdre le Wisconsin et perdre ses comtés, eh bien au contraire l'emporte à 3-1.
Mais pour le résultat dans le Wisconsin, c'est pas définitif.
Non, c'est pas définitif, mais par contre, ils incitent beaucoup sur Fox News sur ce type de résultat dans des comtés qui, a priori, étaient censés passer côté démocrate et qui, finalement, ont été emportés par Donald Trump sur ce simple slogan. Et ça permet de mieux comprendre aussi ce qui s'est passé au niveau de l'État. Law and order, loi et ordre.
Et c'est vrai que nous, on regarde à l'échelle, on a découpé la carte en 50, hein, les 50 États. Voilà. Les Américains, ils la regardent encore plus en détail en découpant à l'échelle des comtés, et ça, c'est très important. Laurence Nardon ?
Oui, je voulais ajouter juste quelque chose sur ce qu'a dit Anthony Bélanger, qui est très juste, sur le vote des minorités. Ce qu'on voit dans cette élection-là, enfin dans les dernières heures, avec les premiers résultats, ce qui se confirme, c'est que les Afro-Américains votent dans leur immense majorité démocrate depuis des années, ça c'est tout à fait normal, mais marginalement, on voit qu'il y a un vote Trump chez les Afro-Américains. C'est, comme l'a dit Anthony Bélanger, les petits commerçants qui ont vu leur magasin brûlé pendant les manifestations de cet été, il y en a eu. Et il y a aussi, et ça c'est un article du New York Times de vendredi dernier, Nate Cohn qui en parlait, le fait que l'image un peu macho, beaucoup macho du président Trump, en réalité plaît aux hommes, à certains hommes afro-américains, parce que on est dans les stéréotypes de l'homme viril, relativement conservateur sur la question du rôle des femmes, la question du mariage homosexuel et autres sujets sociétaux comme cela. Et du coup, il y a peut-être là quelque chose qui s'est joué effectivement et de manière relativement, on l'avoue, inattendu.
Laurence Nardon, allez, on retourne aux États-Unis. On va refaire un point complet, une vision globale des résultats avec vous, Franck Madvon, en direct de New York. Où en est-on à l'heure actuelle des résultats vraiment comptés définitifs ?
Écoutez, la situation est assez figée hein, en réalité depuis quelques temps. Il y a tout de même Fox News qui vient d'annoncer, mais je vous le donnais déjà dans le journal de 5h30, à l'Arizona en faveur de Biden. Il est de toute façon très largement en tête, Joe Biden, dans l'Arizona. Associated Press et ses partenaires CNN ne l'ont pas donné encore pour Joe Biden, mais selon toute vraisemblance, c'est la seule conquête de Joe Biden à ce stade. Il faut donc se tourner désormais vers les autres États du Nord, plutôt. Et là, on regarde évidemment avec beaucoup d'attention le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Il y a une partie des bulletins qui a été dépouillée, bien sûr. Hein. Plus de 50% de bulletins dépouillés, par exemple, en Pennsylvanie. Donald Trump est largement en avance, 56% contre 42%. Mais cela ne signifie pas forcément grand-chose, car on sait qu'il y a beaucoup de votes par correspondance qui sont plutôt favorables aux démocrates et qui devraient être comptabilisés par la suite. C'est ce qu'on appelle le phénomène du mirage rouge, la couleur des républicains, qui pourrait se transformer en blue shift. Voilà, je vous donne les termes des experts ici, des analystes américains, en blue shift, le bleu, la couleur des démocrates, car cet État pourrait par la suite basculer du des démocrates. Donc il est trop tôt pour donner des résultats dans ces États qui seront évidemment décisifs. On les regarde avec beaucoup d'attention dans les minutes et les heures qui viennent.
Et pour le Sénat, qui est l'autre bataille de ces élections, là on parle beaucoup de la présidentielle, mais le Sénat c'est très important. Est-ce qu'il y a une couleur qui se dessine ?
Alors, le Sénat, vous savez que ça se joue finalement sur 4 ou 5 sièges. Pour le moment, la majorité républicaine au Sénat est de 53 sièges sur 100 et un tiers des sièges était en jeu. Et pour le moment, beaucoup de résultats n'ont pas encore été rendus publics, pas été finalisés. Les démocrates ont 44 sièges au Sénat et les républicains 45. Voilà, too close to call, il va encore falloir surveiller les swing states. Ce qu'on sait toutefois, c'est que les démocrates n'ont pas remporté au moins 2 sièges qu'ils espéraient conquérir cette année. Les républicains ont donc de bonnes chances de conserver le Sénat. Évidemment, on va rester très prudent à ce stade, mais s'ils conservaient le Sénat et si Joe Biden devenait président, la présidence serait très difficile pour Joe Biden sans un Sénat à sa main.
Et donc, restez branchés hein, avec nous en direct de New York, Franck Madvon. Il est 5h47.
France Inter. Le 5-7.
Et c'est la revue de presse, on a tout chamboulé, mais on a gardé la revue de presse de Claude Eskolovitch ce matin. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et on parle d'une rencontre.
Oui, une rencontre littéraire, elle est artistique, elle est française, elle est sur le site de l'Obs. Elle éclaire d'intelligence une nuit de doute quand les États-Unis devinent à peine leur destin et quand le New York Times, oui on parle quand même d'Amérique, souligne que l'idiotie la plus abjecte vient d'entrer au Congrès puisqu'une candidate républicaine nommée Marjorie Taylor Greene a remporté un siège dans l'État de Géorgie. Elle fait partie des supporters de ce mouvement complotiste QAnon, selon lequel l'Amérique serait aux prises avec un complot de pédophiles dirigé par en dessous par les démocrates. Ça, c'est le New York Times. Ça, c'est une réalité américaine qui perdurera au-delà de l'élection. Revenons chez nous, revenons en France, revenons donc au site de l'Obs et revenons à cette rencontre dont le journal se fait l'écho. C'est une romancière et un dessinateur qui se sont trouvés. Elle est Virginie Despentes, combattante, roqueuse des mots, féministe, autrice à succès. Lui est Luz, qui longtemps inonda Charlie Hebdo de son trait rond et ironique et dont la vie bascula en janvier 2015 quand les amis qu'il n'avait pas rejoints ce matin-là tombèrent sous les balles de djihadistes. Depuis, il poursuit Luz hors de Charlie, une œuvre de remords, et puis il vit. Luz a adapté en BD la série romanesque de Despentes, Vernon Subutex. Ils se sont trouvés ces deux-là un jour en mangeant des fingers, oui, les petits biscuits au chocolat, après avoir beaucoup échangé par mail. Et ils décrivent dans l'Obs un coup de foudre culturel, amical, artistique. C'est sublime. Un coup de foudre aussi qui les amène à partager cet étrange dans nos temps d'héroïsme, la beauté du renoncement. Vernon Subutex, dit Luz, je précise pour ceux qui n'ont pas lu, Vernon Subutex, c'est un clochard sublime amateur de musique qui traverse un Paris onirique dans trois tomes de romans. Luz donc, dit Vernon Subutex, donc dit Luz à l'Obs, c'est un personnage qui a le courage de baisser les bras. C'est assez rare aujourd'hui, on est dans une société qui revendique un courage masculin héroïque où le mot martyr croise le mot victime. On n'a pas forcément envie de se retrouver dans ces mots-là. Despentes ajoute, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de Vernon dans les années à venir. C'est vrai, il baisse les bras, mais s'il s'agitait, ce serait à peu près la même chose. Et cette dissidence partagée face à l'héroïsme rend un son troublant, car Despentes et Luz ont autre chose en commun, une tragédie qui devrait les séparer. Charlie Hebdo, qui fut la matrice du dessinateur, mais que Despentes offensa dans son drame par un texte qu'elle écrivait en janvier 2015 pour Les Inrocks, où elle s'identifiait à tous les morts de la période, y compris aux frères Kouachi. Et pour ce texte, en septembre dernier, Charlie Hebdo, bien vivant, affichait Despentes parmi les charognards de Charlie. Elle assume, Virginie Despentes, pour employer un mauvais mot. Elle dit à l'Obs, je serais emmerdée si les gens qui m'en veulent ne m'en voulaient pas. C'est plutôt un honneur de générer leur hostilité, même si ce n'est pas confortable vis-à-vis de Luz. Luz, lui, la défend. J'ai relu la tribune, je l'ai trouvée intelligente. Elle parle de masculinité, de l'appétit de l'homme pour la guerre. Je suis absolument d'accord. Encore faut-il la lire jusqu'au bout. Et les voilà ensemble. Pensera-t-on à Charlie que Luz est un ami perdu? Charlie ne change pas, ça a une cruelle ce matin, montre des danseuses de French Cancan décapitées. La France reste toujours la France. Elle est au diapason d'autres unes où Vienne flotte dans un crépuscule sanglant. Luz, lui, ne veut plus de cela. Il est aussi cette semaine rédacteur en chef des Inrocks, le journal qui fuit, il n'y a pas de hasard, la matrice de Despentes. Il s'y montre drôle et brillant. À l'Obs, il dit ceci, j'en termine. Je rêve d'un boulot où les gens oublieraient complètement qui j'ai été avant que j'ai fait Charlie, qu'il y a eu les attentats. Genre dessiner une robe pour Jean-Paul Gaultier. Mais chaque bouquin est une manière de creuser la terre. Pour Vernon, j'ai creusé une terre que je connais depuis quelques années. Je la creuserai toute ma vie. Quand je dessine un type qui a tout perdu, y compris un pote, qui est dans un deuil généralisé et qui accepte même le deuil de lui-même, c'est évident que ça a des échos.
Claude Eskolovitch, c'était la revue de presse.
France Inter, le 5-7.
This is the United States of America.
Spécial élection américaine.
Et la presse américaine, vous aussi, hein, vous la lisez tous les jours, la presse traditionnelle, les réseaux sociaux aussi que vous scrutez. Bonjour Chine Labbé.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de NewsGuard, c'est un site américain de lutte contre la désinformation. C'est la nuit des résultats, est-ce que ça risque aussi d'être la nuit de la désinformation?
Oui, on le sait déjà, c'est effectivement la nuit de la désinformation. On s'y attendait, hein, ça fait plusieurs semaines qu'on suit cela de près. On avait sorti deux rapports la semaine dernière chez NewsGuard, l'un sur les principaux mythes qu'on a pu voir fleurir en ligne sur les élections et l'autre sur leurs super propagateurs sur Facebook. Ce que je peux vous dire pour vous donner une petite idée, c'est que hier, en début de journée électorale heure américaine, on a publié une liste sur notre site des sites peu fiables qui ont publié des intox sur les élections l'administration américaine. Au moment de publier cette liste, il y avait 22 sites. Et ce matin, là, ici, heure française, je viens de regarder, on est à 37 sites. Donc on en a ajouté plus d'une dizaine dans la nuit avec leur lot de nouveaux mythes ou de nuances de mythes que nous connaissions déjà qui ont émergé pendant la nuit.
Et quoi, par exemple ?
Par exemple, ce qu'on a vu beaucoup fleurir ces dernières semaines, c'est toutes les intox au sujet d'une fraude massive présumée autour du scrutin, donc remettant en cause avant même qu'il ait lieu le scrutin. Et puis là, cette nuit, ce qu'on a pu voir, c'est des accusations très précises, notamment dans des États qui sont des États clés, ces fameux swing states où toute l'élection se joue. Donc on l'a vu par exemple en Pennsylvanie, on a vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux et reprise sur certains sites qui montrait un observateur du scrutin qui était bloqué d'entrer dans un bureau de vote de Pennsylvanie. Cette vidéo, elle était vraie, hein, elle était pas fausse en elle-même, mais en fait, ce qu'elle ne montrait pas, c'est que cet observateur avait été laissé entrer quelques minutes plus tard, qu'il s'agissait d'une erreur. Et surtout, ce qui a été monté en épingle, c'est cet incident pour accuser les démocrates de mener une tentative de voler l'élection en Pennsylvanie. Et donc, on a vu cette allégation, par exemple, sur le site Breitbart, ce site conservateur pro-Trump qu'on a ajouté à notre liste dans le courant de la nuit.
Et justement, j'allais vous poser la question sur les supports. Ces fake news, elles sont diffusées où ? Est-ce que c'est sur des sites qui ont vraiment une forte audience ?
C'est sur les réseaux sociaux qu'on commence par les repérer, mais nous, effectivement, notre travail chez NewsGuard, c'est d'analyser la fiabilité des sites. Donc on s'intéresse aux sites, tous les sites d'information et d'actualité. Parmi eux, il y a des blogs plus ou moins populaires, mais ce qu'on voit aussi et ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est que certains de ces sites montent en popularité. Et on a vu leur engagement sur les réseaux sociaux fortement augmenter, notamment en raison de ces quelques intox qui sont devenus très populaires sur des fraudes présumées, sur le fait que des personnes vivantes auraient voté pour des personnes décédées, que les illégaux seraient autorisés à voter légalement en Californie, etc.
Les réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter et consorts, c'est ça, hein ?
Exactement. C'est ce qu'on a vu pendant la nuit, oui, tout à fait. Ce qu'on a vu pendant la nuit, par exemple, c'est le hashtag Stop the Steal fleurir sur Twitter. Stop the Steal, ça veut dire arrêter le vol. Mettez un terme au vol qui est en train de se passer. Et donc, c'est accusant les démocrates d'une fraude massive et de tenter de voler ce scrutin.
Ça veut dire que les réseaux sociaux qu'on entend régulièrement dire que vraiment ils font le maximum pour modérer, pour faire le ménage et tout, en fait, pas du tout.
Ils font beaucoup de choses, hein, et on l'a vu notamment avec Twitter qui a été très actif et très réactif pendant la nuit, donc pendant la journée électorale américaine, qui a notamment ajouté une nouvelle bannière pour indiquer si des personnes se proclamaient un résultat dans un état où en fait le résultat n'était pas définitif pour l'indiquer aux lecteurs. Donc ils font beaucoup de choses. Le problème, c'est que cette désinformation, on le sait, elle évolue très rapidement, elle est difficile à suivre. Et donc, c'est difficile juste de suivre, d'en suivre le mouvement.
Et cette désinformation, elle vient des deux camps ?
Elle vient des deux camps. Vous vous souvenez notamment, parce qu'on parle beaucoup de la désinformation côté conservateur, effectivement, avec toutes ces accusations de fraude. Mais côté démocrate, vous vous souvenez sans doute de cette polémique qu'il y a eu autour des services postaux américains qui ont été accusés, et notamment leur patron, qui est un proche de Trump, qui ont été accusés d'aider Trump à tricher en empêchant les Américains de voter par correspondance, en supprimant des boîtes aux lettres. On sait que c'était pas lié à des considérations politiques, ces suppressions de boîtes aux lettres, mais souvent à des plans qui dataient d'avant, liés au fait que dans certains endroits, il n'y a plus besoin d'une boîte aux lettres parce que les Américains, comme beaucoup de gens dans le monde, postent moins de courriers. Et on l'a vu cette nuit aussi avec des accusations de ce type-là qui ont fleuri en Pennsylvanie, donc un de ces swing states où on a vu beaucoup de désinformation, avec l'idée que les employés de la poste ne remettraient les bulletins, ne remettraient que les bulletins favorables à Biden et donc ouvriraient les bulletins de manière avec de la vapeur d'eau pour essayer de voir et ne remettre que les uns. Donc ça a effectivement fleuri des deux côtés du spectre politique.
Ces réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle aussi dans la mobilisation des prochaines heures, des prochains jours ? On sait qu'il y a un climat de tension très fort aux États-Unis. Est-ce que vous voyez des choses là-dessus ?
C'est important, effectivement. On sait qu'il y a, on sait que le problème avec ce scrutin, comme vous l'avez bien dit dans votre matinale, c'est qu'on sait qu'on connaîtra pas les résultats définitifs très rapidement, et c'est lié au fait qu'en raison de la pandémie, beaucoup de personnes ont voté, ont choisi le vote à distance, le vote par correspondance. Du coup, il va y avoir un dépouillement qui va durer longtemps, et donc là, on sait que le FBI avait déjà alerté sur le risque de campagne de désinformation à ce moment-là. Donc évidemment, le rôle des réseaux sociaux, il va être très important dans les prochaines heures et les prochains jours. On sait que Facebook réfléchissait à des mesures d'urgence pour le jour de l'élection et les jours à venir. Reste à voir ce qui va être fait concrètement. Nous, chez NewsGuard, on estime que le plus important dans ce moment, c'est l'éducation aux médias, et donc c'est aider les Américains à savoir quelle source d'information ils consultent, à savoir qui se trouve derrière un article avant de le partager sur les réseaux. Et c'est ce qu'on tente de faire chez nous.
Et quand même, une dernière question, il nous reste 30 secondes, Chine Labbé. Donald Trump, qui est un dingue de Twitter, il n'a pas tweeté depuis 5 heures. Pourquoi il se terre dans le silence? Il ne mobilise pas ses troupes, là?
C'est intéressant. Bon, il est peut-être fatigué aussi. Ça a été
une campagne. C'est la nuit
une
là-bas.
Une campagne assez. C'est la nuit, et puis ça a été une campagne très éprouvante pour tout le monde. Il a quand même tweeté il y a quelques heures. On va voir. Il faudra suivre dans les heures et jours qui viennent.
Merci Chine Labbé, en direct avec nous sur France Inter pour cette nuit américaine. Vous êtes la rédactrice en chef de NewsGuard pour l'Europe, un site américain de lutte contre la désinformation. Il est 5h58.